écoutez France Culture.
Voyons voir un peu les dernières nouvelles. Valet de chambre, 42 ans, 1200 francs par mois. Il va un petit peu fort.
It's for you, Mr. Stevens.
Thank you. Mr. Stevens, how do you do?
My lord.
Very good man here, your son. He does the house great service. I don't know what we'd do without him.
Certainly, monsieur. Merci, monsieur le comte.
Jean de Maison.
Madame Affamée?
Bonne cuisinière, 35 ans, ne pouvant pas quitter Paris. Écrire A, B, 11 bis, rue Marbeau. C'est Augustine, ça, ça y est. Elle s'en va encore d'où qu'elle vient d'entrer. Elle peut rester nulle part, celle-là.
Bon appétit, monsieur.
Notre nouvelle bonne.
Je suis bonne à tout faire.
Une émission de Marion Thibat, réalisée par Christine Robert. Aujourd'hui, les servantes de l'église.
Le curé n'est pas là ?
Non.
Laissez-le coucher. Il fait sa sieste ?
Parce qu'elle est fatiguée.
Ah, mais il n'est pas tout jeune.
Hein ?
Il n'est pas tout jeune.
Quel curé ?
Oui.
73 ans. 73
ans. Au revoir. Je vais faire le café. C'est très vite fait. Vous l'aimez bien fort, pas fort, hein?
Bien fort.
Bien fort.
Il y a combien d'habitants ici?
900, non?
900?
Avec les étrangers, comme moi.
Là, nous sommes tout près de Jussac, c'est ça ?
3 km.
En plein Cantal.
En plein Cantal. 3 km de Jussac et 3 km de Marmagnac, de l'autre côté. Deux communes rurales.
Qui vivent de quoi ? De la vache ?
De moins en moins. Avant, il y avait des quantités d'exploitations agricoles, bien sûr, mais toutes petites. Maintenant, ce n'est plus viable. Alors, ça s'est regroupé. On a fait des exploitations beaucoup plus importantes. Les exploitants se sont, bien sûr, pourvus de matériel agricole plus performant. Et il y a très peu de personnes qui travaillent sur chaque propriété. Donc maintenant, il y a du chômage. On travaille un peu à Aurillac, quelques commerces. Mais je suis née dans une paroisse où il y avait 800 habitants. Et à la dernière, au dernier recensement, il y en a 180.
Ça vous rend triste ?
Oui, bien sûr. Quand on aime son pays, ça rend un peu triste. Mais je crois que c'est... On n'y peut rien et personne n'y peut rien. C'est une... Les gens ne peuvent pas rester quelque part où ils ne peuvent pas gagner leur vie. C'est la vie actuelle. Alors les écoles se ferment, les bureaux de poste se ferment.
Les églises se ferment aussi?
Les églises ne se ferment pas, forcément, mais
elles se vident.
Un prêtre est chargé de 5, 6, 7, 8 paroisses, des fois 12. Quand il y avait, il y a 50 ans, un prêtre dans chacune de ces paroisses. Voilà.
Gisèle, vous êtes originaire du Cantal?
Oui, je suis originaire de, disons, la commune de Massiac, une ferme isolée à 5 km de Massiac. C'est tout au bout du Cantal, près de la Haute-Loire.
Avec des parents
Des parents agriculteurs. Et j'ai encore mes frères, deux frères qui sont à la ferme et des neveux qui prennent la succession maintenant.
Vous auriez aimé le travail à la ferme?
Moi, oui, bien sûr. Si, j'aurais bien aimé, mais mon désir était tout autre. J'ai eu, disons, à 18 ans, le désir de consacrer ma vie au Seigneur. Et par là, j'ai cherché de quelle façon je pourrais, je ne sais pas, le mieux servir l'Église. Et c'est là que j'ai trouvé l'Institut, un prospectus comme ça, sur l'Institut des servantes du sacerdoce. Et ça m'a tout de suite intéressée.
Aide aux prêtres, ce ne sont plus des bonnes de curé. Jeanne, Gisèle, Anna, elles vivent toujours sous le même toit que celui qu'elles aident et qu'elles soutiennent. Certaines sont consacrées, sans être religieuses pour autant, ce sont les servantes du sacerdoce. Une région, le Cantal, a été à l'avant-garde de la métamorphose des anciennes bonnes de curé.
Vous célébrez la messe tous les matins?
Ah oui.
Ici?
Oui. À moins que j'ai des obligations.
Ailleurs?
Ailleurs, autre.
Saint-Paul-des-Landes, c'est un tout petit village?
Oui. Alors, je ne suis pas curé de Saint-Paul-des-Landes parce que j'ai dépassé l'âge de la retraite, j'ai 76 ans quand même, comprenez. Et alors, seulement notre évêque avait demandé que les prêtres qui, après 75 ans, car 75 ans, d'après le droit canonique, on doit donner notre démission. Mais qui acceptait d'aller dans des paroisses sans prêtre, veuille bien y aller, mais alors sans être vraiment curé, mais en rendant les services d'un curé, la même chose, donc je fais le même travail qu'un curé, et voilà, seulement j'ai ici la paroisse de Crandelle, et puis la paroisse de Tessières de Cornet, ça fait trois petites paroisses.
Il y a combien d'habitants ici à Saint-Paul-des-Landes?
Oh, je ne sais pas combien, c'est pas énorme. Et c'est un peu une ville dortoir. Parce qu'il y a des cités autour du bourg qui sont peuplées par des gens qui travaillent à Aurillac. On est qui rentrent tous les soirs, qui repartent tous les matins. Et oui.
Ici, vous êtes bien tranquille au presbytère.
Ah, tout à fait. Puis voyez, aujourd'hui, c'est sombre, mais quand il y a du soleil, nous avons le soleil dans des fenêtres toute la journée. On est bien.
Père Combadia, ça fait combien de temps que Gisèle Touzet est à votre service?
Il y a 22 ans. Il y a eu 22 ans, même, enfin, il y a eu 22 ans, quoi, au mois de, je sais plus quoi, novembre ou quelque chose comme ça. Eh oui.
On va peut-être rentrer dans votre presbytère.
Oui, oui.
Dans le presbytère, là, vous vivez vraiment à deux, Gisèle et vous?
Eh bien, oui, c'est tout. Nous avons actuellement une petite gamine, là, d'une famille algérienne que nous avons beaucoup aidée quand nous étions à Aurillac et qui, de temps en temps, vient nous voir. Elle est là, mais enfin, elle va repartir aujourd'hui ou demain, je pense. Pardon. Je passe devant. Nous avons même un coin prière.
C'est la salle à manger prière.
Ça, c'est la salle à manger.
Salon, salle à manger.
Oui, oh, ça sert à tout. Vous savez, j'y reçois les gens qui viennent pour préparer les baptêmes, préparer les mariages, on fait tout là-dedans. Ben oui, j'ai un bureau en haut, mais un bureau qui me sert aussi de chambre, parce que nous n'avons pas assez de chambre ici.
Vous voyez?
Ah, oui,
ah
toujours.
Oui, toujours.
Vous vous appelez comment?
Moi, j'appelle Monsieur le Curé.
Monsieur le Curé, moi j'appelle Gisèle, mais c'est tout, vous savez.
Comment est-ce que vous faites pour donner un peu d'âme ici au presbytère?
Mais donner l'âme à une maison, je pense que on donne ce qu'on est. Hein. Une maison sera accueillante si la, les personnes qui y sont accueillantes.
Quelles sont vos tâches quand même
ici?
Oui.
Maîtresse de maison, puis je m'occupe de l'église.
Vous diriez que c'est un métier?
Je dis que c'est une vocation.
Mon père, votre point de vue?
L'un comme l'autre, l'une comme l'autre de ses vocations, c'est un don total. Et nous n'avons pas le droit de regarder en arrière.
Et... N'empêche que c'est quand même vous qui êtes servi.
Mais je suis servi parce qu'elle me fait la soupe. Comprenez ?
Elle est bonne.
Et parce qu'elle est très bonne, elle est très bonne cuisinière. Et puis, et puis parce qu'elle me tient la maison, voyez-vous, chose que moi je ne pourrais pas tout faire. Puis je ne sais pas le faire aussi, il faut
vous
dire.
Vous pourriez apprendre.
Ah mais oui, mais d'accord, oui, il y a des hommes qui sont cuisiniers bien meilleurs que des femmes, c'est sûr. De même que pour tenir la maison. Non mais, comment dire, c'est pas ma vocation. Ma vocation, moi, c'est le service des autres. Vous voyez, par le service religieux des autres, vous voyez, dans la foi de l'Église catholique. Hein, et elle est là pour m'aider à vivre cette vocation, tout en vivant la sienne, qui est aussi un appel du Seigneur à servir les autres.
Mon père, c'est important d'avoir une présence féminine dans la maison.
C'est important.
Vous pourriez être aidé par un,
alors, je vais vous
par
dire,
un homme.
Oui, c'est vrai. Mais je vais vous dire, là, il y a deux choses là, qui sont d'ailleurs complémentaires. Il y a le fait que la femme est quand même plus apte à certains travaux, voyez, qui sont nécessaires pour la vie normale, voyez, dans une maison, la cuisine, la tenue de la maison, etc.
Et ça, c'est une ancienne conception, hein ?
Oui, d'accord. Mais justement, à la nouvelle conception vient s'ajouter ce que j'appelais le deuxièmement, et c'est une communauté de vie spirituelle. Il faut un prêtre, avec même une très bonne aide au prêtre à certains points de vue, qui ne serait pas d'accord sur l'orientation spirituelle, voyez-vous, de la vie de son apostolat, eh bien ne réussirait pas.
Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une grande complicité entre vous.
Une grande complicité au point de vue foi et vie spirituelle. Voilà, c'est là notre complicité, vous comprenez ? Parce que si on ne s'entend pas là-dessus, bien, il manquera quelque chose. Peut-être la maison sera bien tenue, peut-être la cuisine sera bien faite, mais ça ne sera plus, voyez-vous, une véritable aide au prêtre ni une servante du sacerdoce. Et nous reviendrions vers l'ancienne conception de la bonne du curé. Voyez ?
Mademoiselle Morzière, quand on vous demande votre profession, qu'est-ce que vous répondez ?
Ma profession ? Aide au prêtre. C'est très net. Je n'ai pas d'autre profession que celle-là pour le moment. Pour le moment, je n'en aurai pas. Hein.
Vous ne dites pas bonne du curé ?
Non, je ne dis pas bonne du curé. Parce que si ça avait été bonne du curé, je ne me serais certainement pas engagée dans cette vie, dans cette orientation. Vous voyez, pas du tout, du tout. J'ai connu dans mon enfance les bonnes de curé. L'appellation bonne de curé, je pense, disait assez bien ce qu'elles étaient en fait à ce moment-là. Mais n'empêche que c'était peu considéré, vous voyez, c'était peu... Il y avait une bonne chez le docteur, il y avait une bonne chez le notaire, il y avait une bonne chez M. le curé. On ne voyait pas tellement la différence et même... Elle était peut-être moins appréciée que les autres, souvent. C'était comme ça, quoi. La bonne du curé, vous savez, c'était pas... C'était des personnes qui étaient souvent assez peu formées sur le plan intellectuel, la plupart du temps, sur le plan spirituel même, assez souvent, sur le plan humain. Alors... Une fois ou l'autre, elle aurait peut-être eu tendance à dire oh « ben, elle pourra toujours faire une bonne de curé ». Vous voyez, à ce moment-là, ça se disait un peu comme ça. Et ce manque de formation, justement, se faisait beaucoup sentir, sur leur façon de vivre leur mission, de vivre leur service. C'était leur employeur, dans le fond. C'était M. le curé qui les payait, qui les nourrissait. Alors, elles avaient, bien sûr, elles étaient nourries, comme je vous le dis, elles étaient payées très très peu, mais c'était quand même leur gagne-pain. Alors, comme travail, elles faisaient la cuisine, bien sûr, assez simple en général, mais elles avaient l'entretien du presbytère, qui était souvent, surtout en campagne, des grandes et vieilles maisons, c'était exigeant. Hein. Un jardin pour pouvoir vivre, de la volaille, un clapier. Je crois que leur service était quand même dur, assez dur, quoi.
Elles y consacraient leur vie.
Elles y consacraient complètement tout leur temps et souvent de nombreuses années de leur vie, oui. Et ce n'était pas apprécié, elles le sentaient très bien, elles en souffraient. Jusqu'en 1946, on ne parlait que de bonnes de curés ou bien leurs gouvernantes de presbytère. On employait aussi cette expression-là. Quelquefois, malheureusement, c'était un peu vrai, parce que lorsqu'il y avait une personne qui avait un tempérament assez affirmé, elle s'affirmait même à l'égard de M. le curé. Alors elle conduisait un petit peu tout.
C'est-à-dire qu'elle n'était pas toujours très bonne.
Pardon?
Elle n'était pas toujours très bonne.
Vous savez, on n'est pas spontanément bon, hein, même si on habite un presbytère. Alors, voyez, dans ces années-là, il y avait un prêtre, le père Tellier de Francheville, qui parcourait tous les diocèses de France pour prêcher des retraites, surtout aux prêtres. Donc il avait des contacts avec tous les diocèses et avec énormément de prêtres. Et il était très inquiet, justement, parce qu'il sentait que ça n'aidait pas le sacerdoce des prêtres. Alors il avait lancé des appels, même dans la Croix de Paris, vous voyez, des cris d'alarme, il disait lui-même, et c'est vrai, c'était un peu des cris d'alarme, en disant si les prêtres continuent à être aidés comme ils le sont actuellement, il y en a d'abord beaucoup qui n'ont personne, et les quelques personnes qui sont au service des prêtres ne sentent pas suffisamment leur mission comme une aide aux prêtres, vraiment, quoi. Ils aident un homme, elles n'aident pas un prêtre, et c'est malheureux pour leur mission sacerdotale, pour leur tâche pastorale aussi. Et de son côté, M. l'abbé Bonhomme, qui a fondé le mouvement après...
Quand vous parlez du mouvement, c'est le...
Le mouvement des aides aux prêtres, qui a changé le...
Qui a réformé,
c'est ça, la mission et la façon de la vivre, surtout.
Des bonnes de curé.
Oui, c'est ça. On a enterré les bonnes de curé pour faire naître les aides aux prêtres le plus possible.
Votre curé, c'est le père Bonhomme? Ça a été longtemps le père Bonhomme?
Mon curé, pendant 7 ans, ça a été le père Bonhomme, oui, en paroisse rurale, et puis ensuite, je vous dis, à Mauriac.
Racontez-moi un petit peu comment c'est passé. Vous aviez quel âge quand vous avez commencé?
25 ans. Alors, comment ça s'est passé, là?
Pourquoi est-ce que vous êtes devenue comme ça, bonne de curé ou aide aux prêtres?
Eh bien, personnellement, je pensais à une orientation de service du Seigneur ou service de l'Église.
Vous étiez très croyante, très pratiquante?
Durant ma prime jeunesse, pas tellement. Dans une paroisse, elle n'était pas tellement chrétienne. Si, elle était chrétienne, mais enfin pas très pratiquante, non.
Votre famille?
Alors, si, ma famille était croyante et pratiquante, oui. Mais moi, je n'étais pas... Alors, j'ai été quand même dans une institution religieuse pour les études, mais enfin, je n'étais pas tellement marquée. Et alors, je pensais quand même... À partir de 21 ans, vous voyez, par là, j'ai pensé à une orientation de service d'église.
Pourquoi?
Et du Seigneur. Parce que le Seigneur m'y appelait, sans doute, je ne peux pas vous dire pourquoi. Pratiquement, l'origine, ça a été une maladie. J'ai beaucoup admiré la religieuse qui me faisait les piqûres. J'ai senti en elle quelque chose de formidable. Et je me suis dit, pourquoi pas moi?
C'était une religieuse...
Oui, Saint-Vincent-de-Paul. Et je ne lui ai jamais dit à elle... Vous voyez, ça a été quelque chose de très personnel, mais je crois que le départ quand même de, si on peut appeler ça une vocation, oui, bien, ça a été ça.
Pourquoi est-ce que vous l'avez admirée? Qu'est-ce qu'elle représentait pour vous?
Elle était tout entière, elle était très, très pacifique, elle rayonnait la paix, elle rayonnait la générosité, le dévouement, et puis j'ai senti qu'elle aimait quelqu'un tellement fort que ça m'a donné envie de rencontrer ce quelqu'un plus profondément et de me donner à son service.
L'église, parce que maintenant en France les églises sont fermées.
Dans la journée, mais pas dans la nuit.
C'est l'entrée de service par là.
Je rends beaucoup de service ici. J'ouvre, je ferme, j'occupe des fleurs. À moitié du temps, on m'apporte parce que je ne peux pas toujours fournir de ma poche. Alors les gens, ils apportent.
Qu'est-ce que vous aimez, Anna, dans l'église, vous? Quand vous venez ici toute seule, qu'est-ce que vous aimez?
Mais je approche à côté de la Vierge, je demande des grâces, ça dépend. Mais j'aime bien venir maintenant à l'église parce qu'elle est propre, elle est bien, parce qu'avant, elle était vraiment dégueulasse. Hein. Par terre, c'était tout abîmé, mais là, maintenant, je suis bien contente. Ça fait bien pour tenir, entretenir tout. Les gens bénévoles, ils viennent nettoyer, parce que je ne peux pas faire.
C'est pas vous qui faites le ménage?
Ah, ben non. Quand j'ai, oui, mais par contre... J'ai dit, tiens, l'église aura besoin de nettoyer. Alors, deux jours après, j'ai du monde. Des balais, des serpillères, de tout, ils viennent. Alors là, je n'ai pas besoin de faire réclame, comme on dit. Ils sont contents.
Anna, je suis étonnée après, parce que vous ne baissez pas la voix dans l'église.
Non, pourquoi? Non, ça ne fait rien, non. Quand il n'y a rien. Non, c'est pas... C'est quand il y a le prêtre et tout, oui. Mais là, il n'y a personne, on ne peut pas parler, on peut pas... Les gens, quand ils travaillaient là, ils avaient des radios, ils avaient tout. Ils chantaient tout.
Dans l'église?
Dans l'église. Les ouvriers, quand ils travaillaient, ils mettaient les appareils. Mais on n'a jamais rien dit. On n'a jamais défendu qu'il ne fallait pas mettre la musique. Quand il y a des mariages et tout, il y avait des musiques. Vous voyez, ben, il y avait un piano là. Là, il y avait les barrières avant. Ils ont tout tombé. Ça, on appelle ça l'étable de communion. Ça s'appelle les autres fois, on se mettait à genoux. Oui. Alors, voilà notre... l'église. Alors, l'hiver, là, je mets le chauffage pour faire chauffer.
Il fait très froid ici, l'hiver, non?
Oula. Oui. Mais il y a le chauffage ou gaz. Mais c'est la commune qui nous paye. Et puis donc, il y a pour sonner les cloches, c'est moi que je sonne.
Vous êtes un peu le bedeau de l'église.
Voilà hein. Elle arrive à savoir, oui.
À quel moment vous sonnez les cloches?
Mais les dimanches, et puis les vendredis soir, quand il y a la messe.
Pour la messe?
Pour les messes. On ne sonne pas tout le temps. Parce que justement, les gens, ils n'ont pas voulu qu'on sonne Angélus, parce que soi-disant, ça dérangeait du monde. Parce qu'il y en a du monde qui habite à côté et tout. Et s'ils attendent sonner les cloches, alors ça réveillait. Alors c'est pour ça. Autrement, ils aimaient bien attendre sonner les cloches, parce que ça sonne joli et tout. Mais ça réveillait.
Vous aimez bien les cloches, vous, Anna?
Moi, j'aime bien. Parce que quand il y a des fêtes et tout, alors je mets... Et puis je mets sonner longtemps, longtemps.
Qu'est-ce que vous préférez dans cette église?
Un peu de tout. La propreté, des cadres, tout. Oui, je préfère tout. Et puis là, je trouve que l'endroit, même si vous n'avez pas envie de prier, il me semble que ça vous oblige de prier. Quand j'entre là-dedans... On dirait qu'il y a quelqu'un qui me reçoit là-dedans. On dirait qu'il y a quelque chose qui m'appelle. Il me semble que j'en ai besoin. Comme il y a beaucoup de choses, comme maintenant je suis toute seule, comme je n'ai pas mon mari, comme je n'ai pas mes enfants, les gens, il faut quand même se méfier, pas le dire à n'importe qui, il me semble que je souffre, j'ai besoin de prier. Je ne sais pas si j'ai été élevée dans la famille aussi comme ça, parce que quand j'étais là-bas chez moi,
en Ukraine.
Mes parents, ils étaient très, très croyants. C'était pas comme ici. Donc, je garde un petit peu. Quand je prends du pain, n'importe quoi, je fais toujours un signe de croix sur mon pain. tout le temps. Même le père, lui, il ne fait pas, mais moi, je fais. Vous voyez? Alors là, j'ai bien encore ce soir à l'église et j'ai bien pour prier. Alors je crois que j'avais vite ramassé mon linge parce que j'ai peur qu'il pleut, non? Alors vous viendrez dire bonjour à ces gens-là. Je parle de que...
Qui est? Je ne connais pas.
Mais vous allez faire comme moi, vous allez faire connaissance. Alors vous descendez deux minutes, je vais ramasser mon linge.
Mademoiselle Borzière, si je compte bien, ça fait 50 ans que vous êtes aide-prêtre.
51 ans. Cette année, j'ai commencé en 1946, tout à fait au début du mouvement. J'avais choisi cette voie et je m'y suis pleinement épanouie dès le départ. Nous expérimentions comment vivre un service d'aide-prêtre, voyez, à ce moment-là.
Quelle était... l'ambiance à cette époque-là. Vous avez le sentiment de vivre un peu en famille?
Oh oui, avec les prêtres, c'était très simple. Hein. Quand nous avons été à Mauriac, nous avions 24, 25 ans, 26 ans.
Les prêtres avaient quel âge?
Le même âge. Les jeunes prêtres avaient le même âge. Alors, Monseigneur Pinson, à ce moment-là, l'évêque du diocèse, a souhaité qu'on revête un uniforme pour que ça fasse plus sérieux, entre guillemets.
C'était quel uniforme? C'était une blouse grise?
Oui, une robe grise, oui. Un petit voile comme ça, là, c'est tout. Alors, aux yeux des gens de Mauriac, à ce moment-là, on passait plus ou moins pour des gens de religieuses, vous comprenez. Alors, c'était quand même plus sérieux que des jeunes filles qui auraient vécu auprès des jeunes prêtres. Mais voyez, là, mettons, à Mauriac, nous ne prenions pas les repas en commun. On mangeait à la cuisine nous-mêmes et puis on servait à la salle à manger. Les prêtres se retrouvaient entre eux. Je pense que ça reste peut-être souhaitable, même actuellement, vous voyez, que les prêtres, quelquefois, se retrouvent entre eux. C'est tout à fait... C'est bien.
Chacun avait sa chambre?
Oui, les prêtres avaient une chambre et un bureau chacun. Mais nous avions une chambre à trois.
Un dortoir?
Non, que nous avions divisé en box.
Vous étiez payé?
On n'était pas payé. C'était pas possible, hein. Ça n'aurait pas été possible de payer trois personnes. Nous avons commencé assez pauvrement, et c'est bien, c'est très très bien. Et nous avons, dès le commencement au Rouget, nous nous sommes occupés bien sûr de la cuisine de Monsieur le curé, mais très vite, et des catéchismes, et des, ce qu'on appelait à ce moment-là les patronages ambiantes, et puis groupe de jeunes filles, séances récréatives pour faire rentrer un peu d'argent à la paroisse. Et puis, même, vous voyez, les docteurs, il y avait deux docteurs dans le pays qui sont venus nous demander de faire les piqûres de pénicilline toutes les trois heures. Eh bien, dès le départ, le père Bonhomme a considéré tout ça comme étant une aide apportée à son sacerdoce. Contrairement à ce qui se vivait jusque-là, qui était vraiment que le service du presbytère, le service matériel du presbytère.
Vous faisiez le ménage, les courses?
Oui.
Le jardin potager?
Oui. Au Rouget, nous en avions deux. À Mauriac, on n'avait qu'un petit jardin d'agrément devant la porte. On l'entretenait, oui. L'église, la tenue de l'église à Mauriac, c'était exigeant. C'était une église romane qui était très ancienne et qui avait été mal entretenue.
un presbytère bien tenu, c'est important.
C'est important. Oh oui, je crois que ça, c'est important. Mais je crois quand même que s'il y avait quelque chose qui doit être un peu négligé, il faudrait mieux que ce soit encore un peu le ménage que l'accueil. Parce que l'accueil, c'est très, très important dans un presbytère. Vous avez des personnes qui viennent pour une première fois dans un presbytère, demander, je sais pas, une messe ou un baptême ou quelque chose comme ça. C'est quelquefois des personnes qui ne fréquentent pas l'église habituellement du tout. Et l'accueil qu'elles vont recevoir à la porte la première fois, ça va certainement beaucoup les marquer.
Vous étiez chargée aussi de faire en sorte que le presbytère soit gai, accueillant.
Est-ce
que...
Oui, bien sûr. Oui. On était des femmes. Alors je pense que ça va ensemble, non? Je pense que oui.
Quelles sont les règles de vie entre un prêtre et son aide?
Entre un prêtre et son aide, évidemment, ce n'est pas du tout une vie de couple, inutile de vous dire. La question ne se pose pas. Le prêtre est consacré au Seigneur et il va être pleinement prêtre. Et il doit y avoir une grande indépendance, vous voyez, de l'aide et du prêtre. On vit dans une même maison, mais ce n'est une vie commune, vous voyez, que sur le plan tout à fait matériel. Bien sûr, je sais bien que dans l'Église, il a pu y avoir une fois ou l'autre des contre-témoignages dans ce sens. L'Institut a tout de même vécu toutes les années après, au moment de 68 et les années qui ont suivi, où vous n'ignorez pas, où il y a eu beaucoup de départs de prêtres,
qui sont défroqués,
malheureusement, avec des religieuses, avec des laïcs. Eh bien, nous n'avons pas eu un seul cas dans l'Institut, vous voyez, où un prêtre et une servante sacerdoce, mettons, et eu des relations qui n'étaient pas claires. Bien sûr, on ne peut pas dire que ça ne peut pas arriver. Hein. Les gens, actuellement, je pense, dans la mentalité actuelle, ont du mal à croire que c'est possible. Mais je peux vous dire qu'une femme et des prêtres peuvent vivre pendant des années dans une même maison et tous les jours en contact les uns avec les autres, tout en restant tout à fait, vous savez, dans une ligne tout à fait de respect, et chacun à sa place, vraiment, sans qu'il y ait absolument aucune relation entre eux qui puisse...
être ambiguë.
Oh, absolument pas. Oh non.
Alors, qu'est-ce que l'on fait parler?
Anna, oui. Vous habitez ici à la cure, à Saint-Jean-la-Bussière.
Oui.
Vous êtes une bonne de curé?
On ne peut pas dire que je suis bonne. Je suis bénévole. Parce que je peux partir un jour au lendemain. Il ne peut pas me dire que je suis attaché à lui, là. Comprenez? Mais comme les gens, je suis bien adapté ici, tout le monde l'aime bien, alors je reste.
Ça fait combien de temps que vous servez, monsieur le curé?
Là? Ça fait 18 ans. Je suis là. Oui, voilà.
Qu'est-ce qui est difficile?
C'est beaucoup de choses. Il faut souvent supporter beaucoup de choses. Il faut être très discrète. Il faut vraiment garder la distance. Et puis après, moi, je n'occupe pas ces affaires de lui. Je suis libre, si vous voulez, mais
pour ses affaires, moi, je n'occupe pas.
Parce que vous entendez beaucoup de choses ici ?
À des moments, oui. Oui. Il y a beaucoup de difficultés des gens, oui.
Qui viennent alors, et qui se confient au curé ?
Père, n'importe quoi. Alors, des moments, ils viennent à la maison. Alors, j'ai dit au père, il faut mettre la pièce à côté parce que je ne veux pas attendre. Moi, ça me fait mal, des moments. Comprenez ? Alors, moi, je ne vais pas savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, parce qu'il y a du monde qui vient dire qu'ils ont des problèmes avec leurs enfants ou ménage ou n'importe quoi, vous savez bien. Alors, moi, ça ne me regarde pas, ça, vous comprenez ? J'ai dit, ma foi, je vais laisser débrouiller tout seul.
J'aimerais bien que vous me parliez un peu des relations que vous avez avec M. le curé. Comment ça se passe ici ?
Mais oui, d'abord, je vois presque jamais à part la table. Autrement, non, c'est pas... Hein. Je ne veux pas dire qu'il m'amène dur, non. Elle est violente, un peu, si vous voulez, quoi.
Violent, le curé ? Oui.
Mais elle a bon cœur. Il revient tout de suite. Il regrette.
Il a mauvais caractère ?
Elle crie et tout, et puis après, deux minutes après, ça passait. Alors, il faut les connaître.
Pourquoi est-ce qu'il crie ? À quel propos ?
Parce qu'elle est comme ça, parce que c'est un fils unique. Puis voilà.
Qu'est-ce que vous faites, vous, quand il s'énerve ?
Moi, je dis rien. Je réponds pas. Moi, je boude. Je suis boudeuse. Je ne savais pas sortir. Je boude. Je dis rien, moi. Alors là, ça lui fait de la peine après, parce qu'il voit que je m'énerve, que je ne parle pas et tout. Alors lui, il est plus malheureux que moi. Vous voyez ?
Et du coup, après lui, il s'excuse alors, quelquefois ?
Oh, ben non, quand même. Non, je ne suis pas quand même exigeant comme ça. Je crois qu'il se met quand même à genoux pour demander.
Quand vous dites qu'il est fils unique, ça veut dire que... Il était habitué à ce qu'on s'occupe de lui, à ce que sa mère soit à ses petits soins.
On ne peut pas dire qu'il a été aux petits soins, mais enfin, il avait un caractère comme ça.
Vous avez vécu avec sa mère ici ?
Oui. Sa mère, elle était dure. Elle était très, très dure.
Elle était comment ?
Ouf, il ne fallait rien toucher. Je ne savais pas faire ni la vaisselle, ni rien du tout. Je ne savais rien faire. Alors, il ne fallait pas laver les vitres, il ne fallait pas laver par terre, parce que j'abîmais. Elle se mettait à genoux et puis elle pleurait. Oh, mes petits carreaux, ça va tous abîmer. Oh, mes carreaux.
Ah, voyez. Vous étiez bonne à rien.
Voilà. Voilà.
Elle vous le disait.
Oui, mais lui, il me défendait. Il a dit, c'est faux, c'est pas vrai, qu'est-ce que tu dis ? Alors là, hein, non. Alors là, il a dit, puisque tu es malade, alors moi, j'ai failli partir. D'abord, j'étais partie.
À cause de sa mère ?
À cause de sa mère. J'étais même partie. J'ai resté 2 mois, mais elle est venue me chercher.
Le curé ?
Le curé. Elle est venue me chercher. Autrement, moi, j'étais partie. Parce que comme j'étais bénévole, ma foi, c'est pas comme si j'étais employée que j'avais le patron. J'ai pas de patron, là. Alors, j'étais partie. Ça fait que 2 ans qu'elle est partie. Il y aura 2 ans, mois d'octobre.
Anna, ça veut dire que vous avez vécu pendant 16 ans avec Monsieur le curé et sa mère ?
Oui, sa mère, oui. Oui, oui. J'ai resté là, j'ai supporté. Ah, pardon.
Le service, ce n'est pas l'esclavage. La servante, c'est celle qui, vraiment, ou l'aide au prêtre, si vous voulez, c'est pareil, se donne gratuitement.
Enfin, même gratuitement. Si elle est payée.
Même si elle, voilà. Parce qu'il faut bien quand même qu'elle puisse s'habiller. Il faut bien qu'elle s'achète ce qui lui est nécessaire pour sa vie, etc. Ou quand elle change ses lunettes, quand elle... Bon, il faut bien qu'elle se... C'est normal. Mais elle n'est pas... Je dirais, elle n'est pas payée pour son travail, voyez, de bonne de curé. Voyez. Elle est aidée à vivre par le prêtre qui lui-même est aidé à vivre par l'Église. Parce que vous savez, si je vous disais quel est le salaire et quelle est la retraite annuelle que je touche, vous vous demanderiez comment je peux vivre.
Vous touchez combien ?
Oh, ça, c'est autour de 20 000 francs par an. Comprenez ?
Et comment faites-vous pour avoir de quoi avoir une aide au prêtre ?
Eh bien, c'est-à-dire que...
Qui paye ?
On peut le dire, Gisèle. Maintenant, nous mettons en commun nos deux retraites.
Bon. Comme un vrai couple.
Il y a de ça, si vous voulez. Mais à ce point de vue-là, bon.
Tous les deux, hein,
on mange tous les deux. Et alors, ce qu'il y a, c'est que, bon, par mon service d'église, ne serait-ce que par les messes que je célèbre pour les uns, pour les autres, les mariages, les enterrements, etc., il rentre quand même un peu d'argent pour le prêtre. Vous voyez ? Qu'il partage, d'ailleurs, attention, qu'il partage avec la caisse paroissiale et avec l'évêché, c'est-à-dire que tout ce que je touche est coupé en trois. Alors, vous savez, ça ne va pas très loin.
Mais quand même, vous avez de quoi
Ah oui, il y a de quoi vivre.
Gisèle.
Ah non, je ne la paie plus maintenant qu'elle est à la retraite.
Oui, bien sûr, oui.
Non. Et d'ailleurs, vous savez, vous pouvez lui demander, mais ce que je lui demande donner avant qu'elle soit à la retraite, ben, heureusement qu'elle était nourrie et logée, autrement elle n'aurait pas pu vivre.
Bah,
et non, vous voyez.
Vous aviez combien par mois, Gisèle?
Je ne me souviens plus.
Vous voyez comment on est attaché à l'argent, nous autres. Je ne me souviens même plus.
Je ne sais plus. J'avais 2000 francs. Non, je ne suis pas sûre. Oui, 2000 francs, je pense, les derniers temps. Ouais. Oh, mais j'ai travaillé pendant longtemps pour 120 francs.
Par mois?
Par mois, oui. Quand on était à la maison Saint-Raphaël, moi j'y suis restée 10 ans. Je n'ai jamais gagné plus que 120 francs par mois.
Gisèle, au bout de 22 ans de vie au presbytère avec monsieur l'abbé, qu'est-ce qui vous exaspère chez lui?
Je n'ai jamais eu de...
Quels sont ses pires défauts?
Non, ça, je ne le... De toute façon,
des petits défauts de la vie quotidienne.
Non, je n'ai pas... On n'a pas trop...
Vous n'êtes pas sensible à ça?
Non.
Mon père?
Je crois que c'est ça l'essentiel, vous. Ne pas s'arrêter à ces choses-là. L'essentiel entre deux êtres, c'est d'être complémentaire, de se compléter, et non pas de s'affronter. Alors, me demandez pas ce que je reprocherai à Gisèle, moi. Parce que je ferai la même réponse qu'elle. Vous me le demandez, mais je ferai la même réponse qu'elle. Moi, je n'ai pas de reproche à lui faire.
Mais je pense qu'elle, elle est admirable.
Le seul reproche que je lui ferai, c'est peut-être de... Mais seulement, je suis quand même d'une bonne santé. C'est de trop bien me soigner.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'elle est... Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'au point de vue cuisine, bon, elle est excellente. Ça, elle fait la très bonne cuisine. Elle aime faire des choses nouvelles, mais comme elle est en même temps très économe, et je vois quand elle va faire les achats, hein, oh, je ne vais pas me passer là, à cet endroit-là, parce que ailleurs c'est meilleur marché, etc. Oui, bon, elle est très économe. Et sur le... À d'autres points de vue, elle m'oblige. Ça, c'est sûr, elle m'oblige à me tenir mieux que je me tiendrais si j'étais un homme seul. Parce que les hommes seuls, c'est quelquefois un peu négligé.
Qu'est-ce qu'elle fait d'autre très bien? Le ménage?
Ah, ben tout, elle fait tout très bien.
Oh. Je suis pas à vendre.
Non, mais c'est vrai. Bon, il est certain que j'ai une chance. Elle a des qualités pour tenir le jardin, et surtout les fleurs. Alors c'est formidable, vous comprenez. Pour moi qui aime les choses qui sont assez, assez belles, autant que possible, dans la mesure où je peux, eh bien, je suis satisfait de tout ce qu'elle me cultive comme fleurs. Ne parlons pas de ce qu'elle cultive au jardin comme légumes. C'est... Nous aimons tous les deux beaucoup rire. Et bon, et alors, on fait assaut d'humour à certains moments, hein, vous voyez. Bon, c'est vrai, parce que... Mais du moment qu'on est heureux dans sa vocation, ça doit se manifester pas extérieurement, par la façon dont on vit. Et j'espère que les gens qui nous voient vivre autour de nous se rendent compte que notre complicité... Je ne veux pas employer le mot de relation, vous voyez, parce que c'est ambigu. Hein, mais notre complicité, les gens s'aperçoivent qu'elle est simple, elle est nette, il n'y a pas de problème.
Oui, vous comprenez? Clair.
Ah oui? Mais c'est ça, nous nous aimons très bien, mais pas à la façon de certains autres.
Oui, disons une affection, si on peut parler d'affection, très fraternelle, mais très claire. Je pense que n'importe qui peut nous voir vivre, il n'y a pas d'ambiguïté entre nous. C'est...
Oui, où les gens s'en rendent compte, parce que bon, ça, c'est des choses qui se sentent. Mais vous savez, si ce n'était pas clair, eh bien, les gens s'éloigneraient de nous. Parce que quelle confiance faire à un curé, vous voyez, dans ce cas-là.
J'ai dit, il te reposait, ma foi.
Le curé voilà. Fait la sieste.
Voilà, maintenant il s'est réveillé. Il est réveillé maintenant.
J'ai l'impression qu'il a une sacrée personnalité, monsieur le curé.
Pourquoi?
Non?
Je sais pas.
Il aime bien manger, il aime bien.
Oui, mais sa santé. C'est que aussi, sa régime aussi, il faut qu'il fasse le régime. À cause de son diabète. Parce qu'il avait fait 96 kilos, maintenant il fait 80.
Ou ça veut dire qu'il aimait la bonne chair alors?
Voilà.
Il aimait bien boire?
Voilà tout.
Fumer?
Manger, oui. Oh, mais il fume encore, malheureusement. Je ne peux pas arriver. Pour ça, il y a des drames, parce que moi, je crains la fumée.
Vous êtes invités ensemble chez les gens?
Ah oui, oui, oui.
Oui, parce que oui. Tout le monde ici vous connaît.
Voilà.
Ensemble.
Voilà.
Monsieur le curé voilà. Et Anna.
Voilà. Elle a s'abonné.
C'est ce qu'on dit?
Ou gouvernante, ça dépend. Ça dépend. On dit Anna aussi. Oui, oui. Autrement, oui. Mais moi, j'ai obligé de refuser parce qu'on est invité très, très, très souvent. On serait tous les jours chez les gens. Par contre, les gens, ils nous aident beaucoup. On donne du beurre, on donne de la viande, des poulets, des pigeons, des œufs, des fromages, de l'argent. Je suis bien aidée ici. Les gens, ils sont très sympas.
Anna, vous êtes heureuse ici, à la cure?
Oui, je ne peux pas dire que je suis malheureuse, non. Oui, je dirais malheureuse, c'est très faux. Oui, je suis heureuse, je fais quand même comme chez moi. Il ne m'embête pas. Vous voyez, ben, il me laisse tout seul faire ce que je veux. Oui.
Mademoiselle Morzière, tout à l'heure vous parliez de votre mission. Vous diriez que vous avez un rapport d'égalité, de complémentarité, d'admiration.
Bon, d'égalité, sûrement pas. Bon, je pense que la mission, la tâche du prêtre dans l'Église est tout à fait, à part, je vous dirais, spéciale, quoi, tout à fait primordiale. Pour la vie de l'Église, donc on ne peut pas parler d'égalité. Mais complémentarité, certainement. Le sacerdoce des laïcs doit justement prolonger aussi auprès des gens, vous voyez, le sacerdoce du prêtre.
Et l'admiration?
Oh, mais ça dépend. Oui, l'admiration dans le fond du sacerdoce du Christ, toujours. On ne peut pas dire qu'on est peut-être en complète admiration devant tout ce que font les prêtres. Ce n'est pas parce qu'ils sont prêtres, vous voyez, qu'ils sont des hommes impeccables. Les prêtres ont leurs défauts comme les autres. Et nous sommes bien placés pour les voir quelquefois. Ça, c'est forcé. Ils peuvent avoir un petit peu tous les défauts qu'a un homme, mais ce n'est pas...
Par exemple?
Je ne sais pas, moi. Il y en a qui sont apathiques, il y en a qui sont très vifs. Il y en a qui se mettent en colère facilement. Il y en a qui sont très calmes, au contraire, et qui acceptent les gens comme ils sont et qui se mettent à leur portée. D'autres qui bouent plus facilement. Pour moi, je ne trouve pas extraordinaire de constater qu'un prêtre peut avoir un défaut. Il reste un homme. Il faut bien comprendre que le jour de l'ordination sacerdotale, ça ne change pas la nature de l'homme, hein.
Vous n'avez jamais eu le sentiment, vous, Jeanne, d'être une domestique?
Ah ben, je peux dire que non. Non, jamais. En service, je dirais tout le temps. Mais pour moi, c'est tout à fait différent. Pour moi, une domestique, ce serait que je sois tenue à faire telle et telle chose parce que telle personne l'exige. le demande. Et ça n'a jamais été ça pour moi, le service. Ça a toujours été quelque chose de voulu profondément, recherché. Il me semble que j'ai toujours essayé, et la plupart des prêtres en font autant, essayer de voir ce qui peut le mieux actuellement servir le sacerdoce du prêtre, bien sûr, et la communauté paroissiale.
Ça a été un don.
Oui, oui, et un don heureux, un don qui m'a comblée. Vous voyez, je ne me suis jamais sentie diminuée, au contraire, quoi. C'est... Ça m'a aidée à grandir en profondeur. Le fond de la vie, c'est ça, vous voyez, vouloir que sa vie serve le mieux possible et en prendre les moyens. Et ça comble, vous savez, ça. Il me semble que comme chrétienne, je n'aurais rien pu trouver qui m'épanouisse davantage. J'aurais pu me mettre au service des enfants, au service des vieillards, mais ça n'aurait pas été plus. Au contraire. Pour moi, ça aurait été moins.
Jean de Maison, aujourd'hui, les servantes de l'Église, vue par Jeanne Morzière, témoin dans le Cantal des débuts du mouvement des aides aux prêtres qui ont remplacé les bonnes de curé. Avec Gisèle Touzet, le père Combadière, Anna Rousson, prise de son Patrice Klein, mixage Monique Burguière, Éric Boisset, réalisation Christine Robert, une émission de Marion Thibault.